Micro ouvert. Micro ouvert.
Vous écoutez Fréquence Mistral. Micro ouvert. Bienvenue dans le micro ouvert numéro 9 consacré au reggae marseillais. Nous sommes le 4 juillet 2023 et j'accueille dans les studios de Fréquence Mistral Jo Corbeau.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être venu.
Ah ben merci de votre invitation.
Donc Jo Corbeau, vous êtes natif de Marseille.
Mmh.
Et après un passage par les Beaux-Arts de Marseille et Paris, vous avez débuté votre carrière musicale par votre présence dans le groupe Albert et sa fanfare.
Polyorcétique.
Alors, qu'est-ce que c'est polyorcétique?
Polyorcétisme, c'est l'art d'assiéger les villes.
Ah.
Dans la Grèce antique. Par exemple, le cheval de Troie.
Donc, vous aviez tout un profil assez armé, finalement.
Ben, disons qu'au départ, la fanfare polyorcétique, déjà au départ, c'était pour rendre hommage à Albert Ayler, le grand musicien de free jazz afro-américain qui venait de disparaître et que nous avions eu avec mes amis la chance de rencontrer et dont le rêve c'était de sortir des festivals de jazz et d'aller jouer dans la rue. Alors déjà en son hommage, on a créé un groupe musical qui intervenait dans la rue. Et comme ces interventions se faisaient souvent dans des lieux où on soutenait par exemple des usines en grève ou des ouvriers en lutte, eh bien on avait cette notion de polyorcétisme, et qui était aussi le nom d'une bande dessinée que j'avais fait avec un ami dans la revue très connue à l'époque qui s'appelait Actuel.
Et oui, parce que bah, oui, vous sortez des Beaux-Arts et vous êtes aussi dessinateur.
Voilà, dessinateur, peintre, beaucoup de cordes à mon arc-en-ciel.
Merci d'avoir précisé, parce que je n'avais pas capté l'enjeu des luttes et des soutiens aux luttes des années, du coup, fin des années 70. Non, début des années 70.
Oui, dans les années 70, tout à fait. Je faisais d'ailleurs partie, en 68, si je peux me permettre, du fameux atelier d'affiches populaires dans l'école des Beaux-Arts qui était occupée. Et nous faisions toutes ces affiches qui sont très connues par la suite. Même des collectionneurs les ont revendues à New York. Toutes ces affiches des usines en lutte et de tous les gens qui étaient à cette époque-là dans une action de lutte.
J'ai bien l'imaginaire des cheminées d'usine là,
voilà, c'est
en
ça.
Sérigraphie.
Exactement, sérigraphie, tout à fait. Parce que c'était un ami qui avait ramené de chez son père, qui était sérigraphe, des cadres de sérigraphie, de la peinture, enfin des encres spéciales pour faire ces affiches pour pas beaucoup d'argent, et on les faisait pour tous ceux qui voulaient une affiche, on leur fabriquait.
Vous avez été là-bas à la bonne période.
Ah oui, c'est sûr.
Vous avez créé un album, La Malédiction des rockers, chez Barclay.
Oui, un opéra rock. C'était d'ailleurs le premier opéra rock français, même avant R, etc., qui était une création totale, qui était une sorte de happening que nous avons donné à multiples reprises et qui a donné donc cet album, La Malédiction des rockers, qui est en fait la bande musicale d'un spectacle complet.
D'accord. On en a parlé que vous avez été illustrateur pour des magazines comme Actuel, voilà, ou Jazz,
oui.
Hot.
Oui, pendant longtemps. Jazz Hot aussi, qui m'a permis justement de rencontrer Albert Ayler, Archie Shepp et beaucoup d'artistes, puisqu'on allait dans des lieux où ils se produisaient pour cette revue Jazz Hot, qui est quand même très connue et qui était une très belle période.
Vous avez été même acteur.
Oui, des acteurs, des petits rôles dans des dans des films avec Pierre Clémenti, avec aussi bien sûr avec Jean-François Bizot, puisque qui était le directeur d'Actuel et qui après est devenu directeur de Nova, le fameux Radio Nova aussi. Et à cette époque-là, il voulait faire un film, donc il m'a amené en Inde, il m'a amené à Bali pour son film La Route. C'est comme ça que j'ai connu l'Asie et que depuis je suis très amoureux et très très ami avec l'Inde.
Et donc après avoir fait tout ça, vous avez découvert le reggae. Vous aviez une âme de rocker, vous avez été absolument passionné de reggae. Vous êtes allé à un concert de Bob Marley en 77 qui vous a permis de vous rendre compte que
c'était ça que j'attendais. C'était ça que je cherchais, c'était justement à travers toutes ces recherches musicales, philosophiques et même politiques, j'ai trouvé dans le message de Bob Marley, dans sa musique et dans son enseignement aussi, les éléments qui me manquaient pour que tout fasse une unité, quoi. Une unité à la fois allant de la spiritualité jusqu'à la lutte contre les oppressions. Et je crois que le message de Bob Marley est magnifique, parce que cette lutte se fait aussi par amour, en fait, non pas par la haine.
Donc une véritable révélation pour le reggae. Et vous arrivez à le mêler en vantant Marseille. Et donc c'est votre spécialité, votre spécificité.
Au départ, en tout cas, au début.
Vous avez, c'est ça, c'est que vous avez mis en valeur Marseille par le reggae.
Oui, c'est vrai. J'avais quand même, à ma période de rock'n'roll, fait rock à Marseille quand même. J'avais fait quand même un ou deux trucs, mais c'était pas vraiment, c'était un morceau parmi d'autres. Et puis en fait, ce qui s'est passé avec le reggae, c'est que j'ai vu un film avec Jimmy Cliff, Harder They Come, Plus durs ils seront. Et ce film se passait en Jamaïque, un peu dans le ghetto, un peu avec les problèmes des gens, la survie, et comment par le reggae, par la musique, par l'expression, on peut arriver à s'en sortir. J'avais l'exemple de Mick Edred, ce DJ qui faisait des émissions de radio. Et puis la criminalité en Jamaïque, très importante, diminuait pendant qu'il faisait ses émissions de radio. Le rôle extraordinaire de Marley lorsqu'il a essayé de réunir les deux partis jamaïcains qui s'entretuaient, en tout cas par gang et clan opposés. Donc il y avait un message d'unité dans le reggae que j'ai perçu dès 77. Et puis ça a été le moment où dès 78 j'ai commencé. Là j'étais dans un groupe qui s'appelait Elvis Platiné à l'époque. C'était juste après Albert et sa fanfare polyorcétique. Donc j'ai commencé à composer mes premiers morceaux de reggae avec ce groupe avant de créer mon premier groupe en 1980, Jazz Sagittarius, où là vraiment c'était toutes mes nouvelles chansons, puisque ce film que je vous racontais tout à l'heure m'avait un peu ramené à Marseille. Et puis il y avait le message de Marley qui disait « il faut retourner aux sources, il faut retourner à vos racines ». Pour lui c'était les racines africaines, mais moi c'était mes racines de ma ville natale et aussi mes racines arméniennes.
Donc vous êtes composé en 78 « Reggae Lussac »
voilà.
Et « Rasta »
de Mouropiane.
De Mouropiane.
Alors ça justement, « Rasta » de Mouropiane. Alors, Reggae Lussac, on va dire que c'est peut-être un des tout premiers, en tout cas, peut-être le premier même, puisque c'était 10 ans après les événements de 68 dont je vous parlais tout à l'heure. Les années se passent très vite. Et 10 ans après, dans les journaux, on voyait, il y a 10 ans, les émeutes de la rue Reggae Lussac, alors le mot Reggae Lussac m'a fait venir dans la tête Reggae Lussac. Et en fait, je chante une sorte de poésie urbaine où je dis « L'affaire est dans le sac, je vais ruguer Lussac pour un printemps qu'elle sacre, le son des bombes qui claquent, ruguer Lussac, vous voyez ?» Il y avait déjà à cette époque-là des bombes qui claquaient, ça n'a jamais arrêté depuis.
Et alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans le reggae et qu'est-ce que vous aimez dans cette musique ?
Alors déjà, au départ, c'est le mixage, en fait. C'est une musique dans laquelle il y a énormément d'influences. Il y a celles qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire le rhythm and blues, la soul américaine, Et puis, il y a ce qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire vraiment la mémoire africaine des tambours, les tambours Nyabingi, cette mémoire de leurs racines, des premiers noirs qui se sont libérés, les esclaves Marrons, qui justement n'ont jamais été esclaves parce qu'ils se sont libérés, ils ont vécu en autarcie dans les montagnes, et ils ont amené aussi cet élément très ancien qu'un grand musicien, Kantosi, a pu transmuter avec le jazz, parce que ces jeunes musiciens de l'époque, on va dire des années 60, 70, eh bien en fait étaient souvent des orphelins du ghetto qui étaient après dans un orphelinat tenu par des bonnes sœurs. Et en fait, ces bonnes sœurs leur apprenaient la musique vraiment, mais parfaitement, avec les doubles croches, avec le solfège et tout. Et ça donnait une génération de musiciens absolument extraordinaires et qui étaient passionnés de jazz, qui écoutaient le jazz des Noirs américains à la radio. Et ça donnait les Mystic Revelation of Rastafari, ça donnait à tous ces musiciens qui ont créé les Scatolites. Donc toute une génération de musiciens absolument extraordinaires qui ont mêlé à la fois le jazz avec leurs racines africaines, la pop aussi, même le rock a eu une influence. Donc il y a eu toutes ces évolutions du ska au rocksteady, jusque bien sûr au reggae, au dub, après avec cette création formidable du dub, qui était pour la première fois des ingénieurs du son, qui devenaient eux-mêmes des créateurs en jouant dans la matière sonore même, et qui depuis a été tellement repris dans le monde entier, dans la techno et dans tout le monde du mixage.
Vous vous donnez sacrément envie d'écouter du reggae. Hein.
Ah oui, ça
vous le présentez bien. Hein. Et en 1984, vous créez avec Tatou le Massilia Sound System.
Oui, c'est ça. Exactement. Là, je reviens donc à Marseille, en fait, donc au début des années 80. Dès le début des radios libres 81, je commence à faire des émissions déjà sur Paris et aussi sur Marseille, avec Radio 13, une des toutes premières radios. Énormément, j'ai beaucoup d'expérience radiophonique. Et lorsque je reviens à Marseille, c'est l'explosion des radios libres. Et donc, dans beaucoup de radios, il y a des animateurs qui aiment le reggae. Je les écoute les uns après les autres. J'essaye de les rencontrer. C'est comme ça que je rencontre Tatou. Qui m'invite dans son émission, qui m'invite chez lui, on s'invite les uns les autres. À l'époque, pour avoir des disques, il fallait les acheter, souvent en export. Et donc, on échange aussi beaucoup d'albums que l'un avait ou l'autre n'avait pas. « Ah, tu as ce disque, c'est pas possible, où tu l'as trouvé ?» Et en tant que deux amoureux du reggae, deux amoureux de Marseille, on lance avec d'autres amis... qui est l'aventure du Massilia Sound System dès 1984. C'était logique parce que dans le reggae, il y a la musique proprement dit, mais il y a aussi, bien sûr, le sound system populaire qui fait qu'en montant un système sonore et des micros, et à l'époque, en toastant, en parlant, en tchatchant sur les versions B, c'est-à-dire sur les faces B des 45 tours, qui étaient des versions instrumentales de la chanson sans la voix du chanteur. Donc c'est sur ces versions dub, comme on dit, que nous avons démarré cette aventure.
Et vous êtes aussi l'inventeur du célèbre cri de ralliement des tribus phocéennes, Yeba Ayoli.
Ben, Yeba Ayoli, c'est une histoire aussi collective, bien
c'est
que
c'est une
vrai
histoire
que
de radio,
je l'ai
aussi
popularisé. Voilà, à l'origine, c'est un animateur qui vient malheureusement de nous quitter il y a peu de temps, qui s'appelle Dr. Fana Food, Olivier Crova, qui était un des premiers pionniers des radios libres aussi. Et il y avait avec lui, il avait invité un ami à lui, jamaïcain, qui était de passage à Marseille. Et dans le langage des Rastas, il y a un phénomène linguistique qui est très important, c'est autour du mot « I ». C'est-à-dire le « je », le « moi », le « I ». Et avec, dans la philosophie Rasta, il y a « I » et « I », c'est-à-dire « toi » et « toi », c'est comme « moi » et « moi ». Donc, il y a quelque chose qui va très loin. Et ils disent aussi, lorsqu'on est parfaitement satisfait, nous sommes dans un état « Iry ». Je suis moi-même avec vraiment dans un bien-être. Et ce « Iry », eh bien, notre ami Fana Food l'a transformé en « Ayoli ». directement. Et c'est comme ça que quelqu'un me dit un jour, il me dit, toi tu dis aussi toujours Irie à la radio, tu sais comment on dit Irie? J'ai dit, ben non, on dit Aioli. Et de là, c'est parti Aioli. Et comme moi, j'employais aussi cette espèce d'injonction, yeba, yeba, eh bien, c'est venu naturellement que lorsqu'on disait yeba, tout le monde répondait Aioli. Mmh. Et lorsqu'on dit Aioli, eh bien, les gens répondaient yeba. Et c'est comme ça qu'est parti un peu ce sorte de délire linguistique si cher aux Marseillais.
Et c'est parti de délire, mais aussi parce que vous y avez beaucoup de scènes, parce que vous étiez présent dans la culture marseillaise.
Sûr. Ah oui, oui, oui. Bah, on était un peu dans l'underground quand même, parce que c'était une époque quand même dans ces années-là, les années 80, on va dire, au début des années 80. Bon, il y avait les radios, ça c'est vrai que ça a beaucoup aidé, puisque les gens pouvaient faire écouter leurs cassettes, leurs morceaux, leurs trucs, des groupes pouvaient passer, ça a été une révolution, la radio libre, il faut bien le dire. Et il y avait très peu de choses au niveau lieu pour jouer réellement. Hein. Il y avait un endroit qui était assez formidable, c'était la MJC Corderie. Donc c'est parmi les premiers qui nous ont accueillis, où on a pu faire énormément d'événements, même inviter les premiers rappeurs qu'on connaissait à l'époque, qui s'appelaient B-Boy Stance, qui sont devenus les I Am par la suite. Et donc il y avait aussi un autre endroit qui s'appelait le Café Vian, qui est venu après la Maison Hantée. Donc il y avait très très peu d'endroits, le Maybe Blues, voilà, il n'y avait que quelques lieux pour jouer, donc il fallait jouer partout. Alors on est parti dans les quartiers, on est parti dans les maisons de quartier, on a investi tous les endroits, et puis voilà, donc le mouvement a s'est déclenché de là. Après il y a eu d'autres générations qui ont suivi.
Du reggae marseillais populaire.
Voilà, reggae marseillais se porte bien.
On va écouter Rebelle du Soleil.
Ouais.
Jamais.
Et voilà.
Aïoli. C'est une reprise, hein. C'est une chanson de Marley, donc Soul Rebel, que j'ai repris sous ce nom, Rebelle du Soleil.
Une belle reprise en tout cas.
Merci.
Comme on a pu le comprendre, vous êtes un des pionniers du reggae marseillais. Mmh. Et maintenant, votre discographie...
Et même en France, hein, on peut dire, si je peux me permettre, parce que quand j'ai vraiment démarré, en tout cas, je dirais, en tant que... Au moment où j'ai démarré, il y avait très très peu de groupes de reggae. Il n'y avait que dans les communautés antillaises. Sur Paris, où il commençait déjà là y avoir quelques bons groupes de reggae, et d'ailleurs un de ces groupes antillais 100% rasta de Guadeloupe et de Martinique, c'était les Men in the Hill. Et donc après Sagittarius, j'ai quand même joué pendant presque 2 ans avec ces musiciens, donc ces rastas, et avec qui évidemment j'ai beaucoup appris. Enfin, je suis tombé vraiment avec des gens que j'ai fait d'ailleurs venir à Marseille, Festival de Saint-Victor, au Festival Nuit Noire, Nuit Blanche pour Musique Noire. Donc c'était déjà aussi très important pour moi d'être parmi les premiers, en tout cas, chanter en français aussi, francophone, parce que la plupart des groupes antillais chantaient en créole.
Et donc, votre discographie est maintenant disponible en streaming et totalement.
Totalement. Donc là, on vient d'écouter cette jusqu'à présent.
Cette reprise qui était dans l'album Roi des Rois de 96.
Ouais, c'est ça.
Ensuite, il y a eu en 98 Yeba Aioli.
Oui, voilà, le Yeba Aioli.
En 1999, Jardin Paradoxal.
Ah non, il y a eu, donc 99, c'est le live.
Ah, c'est le live.
Rebat d'Up Océan, live au Portail Coucou de Salon de Provence, avec le Dub Olympique, une autre formule, parce que les musiciens, depuis, il y a eu toujours beaucoup de mouvements de musiciens autour de mon projet.
Et donc, en 2008, le Jardin Paradoxal.
Voilà, le Jardin Paradoxal, lui qui est, on va dire, la bande sonore, la bande originale de toutes les chansons qui illustrent l'opéra dub du même nom, le Jardin Paradoxal.
Et donc, expliquez-nous ce que c'est l'opéra dub.
Ben, l'opéra dub, dont j'avais déjà eu une première expérience, comme je disais, en 73 de l'opéra rock, puisqu'on avait créé la malédiction des rockers. Et donc, ça faisait déjà quelques années que je travaillais beaucoup sur l'écriture, sur des textes, quoi. Donc, j'essayais de faire que tous ces textes aient une cohérence. Et en fait, j'ai commencé à avoir une cohérence à partir du moment où je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'écrivais, c'était dans ma tête. Et c'était en fait des différentes opinions que je pouvais avoir moi-même, une sorte de dialogue intérieur en quelque sorte. Donc j'ai créé deux personnages. J'ai créé le personnage de V le Gary, hein, le Gary comme à Marseille, c'est le rat. Donc il s'appelle V le Gary. C'était aussi en hommage à un personnage que j'avais fait en bande dessinée dans la revue Underground de V dans les années 80 aussi. Et donc ce personnage V le Gary, qui est un rat des quartiers du centre-ville, du côté de la rue Longue, où il y a beaucoup de rats là. Eh bien lui, un peu comme Jonathan Livingstone, il a décidé de sortir du lot et d'aller chercher une sorte de quête de sagesse. Alors en fait, il remonte l'Uvonne. Et au fur et à mesure, donc, il rencontre un personnage qui vient constamment contredire un peu son discours, qui s'appelle Monsieur Loyal, enfin, une sorte de personnage qui à la fois présente les événements. C'était pour réduire les personnages, vous voyez. Donc, comme je savais que j'allais pas avoir d'énormes moyens avec des figurants et des choses comme ça, ou des comédiens, donc j'ai réduit à 2 comédiens. Donc V le Gary et Monsieur Loyal, une sorte à la fois chaman, etc. Et aussi beaucoup de travail sur l'image vidéo avec une artiste, Sarah Dorival, qui avait fait toute une série de vidéos. Et au fur et à mesure, donc, on remonte la vallée de l'Uvonne. Et comme à cette époque-là, j'habitais Éour, au pied du Garlaban, donc je travaillais beaucoup sur Pagnol, je travaillais beaucoup sur le Spoons. qui était tourné à Eour. Je travaillais aussi en même temps sur Luvonne et les mythes antiques de Luvonne à la période des Ségobriges, des Saliens, etc. Et en même temps, en remontant Luvonne, évidemment, le rail va aller jusqu'à la grotte de Marie-Madeleine. Et là, on tombe un peu dans la mystique élastique que j'adore. Et tous ces phénomènes, que ce soit Pagnol, que ce soit l'urbain, que ce soit la grotte sacrée, se mélangent dans ce spectacle, qui est à la fois, donc, comme dans, plutôt dans une opérette, on dirait, en vérité, ponctué des interventions des deux personnages, Et des chansons donc, qui sont sur l'album Le Jardin Paradoxal, qui a été entièrement réalisé par mon ami Rastairon et qui a fait un travail sonore de production extraordinaire. Avec, là, c'est l'ADN qui m'accompagne. L'ADN, c'est l'Amicale Dub Naturel. C'est un collectif de musiciens, en fait, que j'ai créé, on va dire, en 2003. Et qui fait que j'avais donc eu pas mal d'artistes, musiciens qui étaient prêts à jouer suivant leur disponibilité. C'était plus la notion du groupe, c'est plus la notion de chaque musicien est un artiste à part entière.
C'est plus, oui, comme une vision de MC, quoi.
Voilà, exactement.
Et donc, on voit que vous aimez mixer les formes. Entre oui. Cinéma, son, vidéo. Là, il y a une captation sonore, vidéo, j'imagine, du Jardin Paradoxal.
Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup du Jardin Paradoxal. Il y a des titres comme Elle et Lee, comme Spoonspower aussi. Où, dans Spoonspower, sur YouTube, vous pouvez voir carrément la scène de la première qu'on avait réalisée à Aubagne, puisque ça avait été créé avec la ville d'Aubagne à cette époque-là.
Et qu'est-ce que c'est le Spoonspower ?
Ben, le Spoonspower, c'est ça, parce que dans le film, le Spoonspower, c'est Fernandel qui joue le rôle d'un petit personnage qui travaille dans une épicerie, justement, l'épicerie des Ours, et qui est complètement ridiculisé par tout le monde et surtout par son oncle, parce qu'il croit qu'il est un grand artiste. Il dit qu'il a un don de Dieu, qu'il doit aller devenir un comédien, jouer, être payé en dollars. Je recommande ce film à tout le monde. Et le vrai, l'original. Et puis, voilà qu'il se prend à rêver de partir à Paris, et en fait, il y a toute une bande de gens qui le prennent pour un schpoun, justement, un idiot, en quelque sorte, qu'il embarque à Paris où il va être humilié, mais à la fin, il revient grand artiste dans la voiture décapotable dans le village des Ours. Et d'ailleurs, j'avais fait un spectacle sur Aubagne aussi, justement, où j'avais carrément matérialisé, c'est-à-dire à la fin du spectacle, je partais en voiture décapotable avec le chauffeur, comme le Spoonz de l'époque. Et je dis toujours, Spoonz de tous les pays, unissez-vous. C'est-à-dire, on vous prend pour un idiot, un stupide, quelqu'un qui n'a aucun don, qui ne peut rien faire. Non, c'est pas vrai. Tout le monde peut faire quelque chose. Et peut-être pas avoir une voiture décapotable rouge, mais avoir une auréole de fierté de sa vie personnelle.
C'est ça, sortir de la honte pour aller vers la fierté. C'est pas mal ça. Et en 2005, vous étiez en résidence pour la ville d'Aubagne auprès des maisons de quartier, oui. Dans un cadre de création et d'organisation d'événements culturels tout au long de 4 saisons pour célébrer donc les 1000 ans de la ville.
Oui, oui, oui.
Et vous avez présenté aussi une dub conférence performance sur la puissance de la parole, le mot,
oui,
le son,
oh là,
le pouvoir,
c'est magique,
à la bibliothèque de l'Alcazar.
À l'Alcazar, hein, qui a malheureusement brûlé aujourd'hui. Et c'était assez extraordinaire. C'était vraiment... j'avais invité beaucoup d'habits à l'Alcazar avec des projections. Il y avait même le grand cinéaste Paul Carpita, l'homme qui a fait les rendez-vous des quais, qui était venu. C'était autour de la parole, la puissance de la parole. L'énergie créée par le verbe, à la fois le côté mystique, à la fois le côté de la puissance, comment la parole peut, et comment l'absence de parole aujourd'hui est ressentie, c'est-à-dire de vraies paroles, comme on peut parler des Jean Jaurès, comme on peut parler des gens qui avaient vraiment quelque chose à dire, quoi. Donc c'était un très bel événement, mais pour revenir au quartier à Aubagne, il n'y a pas qu'à Aubagne, hein, j'ai travaillé tout au long de ma vie, en dehors des concerts, j'ai toujours travaillé avec des maisons de quartier, notamment avec Saint-Gabriel, dans les quartiers nord, à une période où, évidemment, il y avait des budgets, il y avait des moyens financiers pour les maisons de quartier, pour les maisons, les centres sociaux. Il y avait des moyens et donc les gens travaillaient sérieusement et en profondeur. Et j'ai connu dans tous ces quartiers des gars et des filles formidables. Et bon, ça a été de super belles expériences. Notamment, je me rappelle quand même avoir fait un travail dans le quartier du Panier, dans le centre social Bossang, avec deux jeunes gars qui plus tard ont monté la Funky Family, hein, Menzo et Laura Luciano. Donc, c'était des petits gamins qui arrivaient, qui me montraient leur cahier d'écolier où ils avaient écrit leur premier rap.
Comme quoi? Oui, c'est bien que vous le rappeliez. Il y avait des, vous le rappeliez, pas rappeliez. Il y avait des moyens et c'est pas.
Ah oui, voilà, c'est tout. Il y avait vraiment des moyens de faire des choses formidables. On avait tourné un film Station Vieux-Port avec des gamins du Panier. On avait enregistré des disques, des morceaux de musique avec des gamins qu'on amenait dans des studios. C'était quelque chose d'extraordinaire. Des gamins qui sont devenus par la suite des gens qui ont fait beaucoup de choses, comme Sista Miki, des gens que j'ai rencontrés à l'époque, les DJ Gel, et même Aya, même notre ami Akhenaton qui un jour a débarqué au cœur du Massilia Sound System et qui a commencé à tourner avec notre ami Tatou. Donc, toutes ces générations ont suivi et il faut pas que le lien se rompe même s'il a été bien amoché.
Et pourquoi c'était important pour vous de faire tous ces ateliers?
Mais d'abord parce qu'on me le demandait et parce que j'estime qu'un artiste il doit être présent dans la société, il n'est pas seulement en représentation, il y a toute une part de travail énorme, c'est pour ça que j'ai toujours défendu le statut d'intermittent du spectacle, parce qu'il y a une partie qu'on ne voit pas de l'iceberg, tout le travail d'écriture, de composition, de mise en place, de répétition, les musiciens qui se déplacent, qui font des dizaines, c'est beaucoup plus de kilomètres pour aller, pour venir, pour répéter. Donc ça, c'est une partie du travail qui est après amené sur scène par le groupe, par la représentation, mais l'artiste doit être aussi présent lorsqu'on fait appel à lui pour l'écriture, par exemple. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les ateliers d'écriture à Port-de-Bouc, à Miramas, à Ber, dans plein d'endroits, avec des jeunes qui avaient des choses très intéressantes à exprimer. Pas toujours, mais bon, on arrivait à... C'est là qu'on s'est aperçu à un certain moment, d'ailleurs, que socialement, c'est vrai qu'ils mettaient beaucoup le paquet sur le rap, hein, il faut bien dire ce qui est, parce que c'était une manière assez simple, on va dire, d'arriver, contrairement à la musique, où il faut quand même des mois, des années pour jouer de la musique. Et c'est vrai que ça a beaucoup révolutionné un petit peu la scène musicale, le fait de passer sur le côté informatique de la musique.
Mais c'est comme faire des ateliers radio. Il y a un côté facile d'accès pour s'exprimer,
radio,
pour,
c'est magnifique.
Pour écrire, pour si on n'est pas à l'aise avec l'écrit, de balancer sa petite chronique. Oui. Voilà, c'est en même temps ludique et en même temps, bah, ça parle.
C'est très bien que vous faites ça, c'est très bien vos ateliers, ça c'est formidable, Fréquence Mistral. J'ai fait même une fois une émission de radio à la prison des Baumettes.
Mais c'était avec Radio Galère?
Je crois bien, c'était eux qui géraient ça, donc ils m'avaient invité. Et comme vous, les gars qui étaient là, enfin qui étaient des détenus, hein, avaient préparé leurs questions, ils me posaient des questions exactement comme aujourd'hui. Et c'était très bien. J'ai joué aussi en concert aux Petites Baumettes, aux Grandes Baumettes et même en prison de femmes. J'ai joué dans des prisons à Toulouse, à Albi. J'ai beaucoup tourné dans le sud-ouest. J'ai monté des spectacles aussi beaucoup à l'époque dans le sud-ouest. Vous savez, il suffit d'avoir quelqu'un qui a un certain pouvoir au conseil régional, régional ou départemental, par exemple, au niveau de la musique, de la danse, de l'action, de la jeunesse. Si ces gens ont envie de bouger, ils ont les moyens de le faire et de faire appel à des artistes compétents qui peuvent intervenir quotidiennement.
Mais aussi parce que vous êtes un musicien de live. Vous aimez, voilà. Vous aimez vous produire sur scène. Alors, j'ai une petite question qui n'est pas si facile que ça. C'est, est-ce que vous avez un de vos titres que vous préférez?
Oh là là.
Parce qu'il y a beaucoup d'albums.
Oh. Ah oui, ben alors, je reviendrai juste à ce moment-là sur une question que vous m'avez posée tout à l'heure, parce que c'est un des plus anciens, je n'ai pas vraiment répondu quand je vous m'ai parlé du Rasta de Mouropian tout à l'heure,
oui.
Puisque j'avais répondu sur l'autre chanson, Reggae Lussac, mais pas sur le Rasta, qui était aussi une des toutes premières. Là, donc, c'est une période, j'étais dans ce groupe Elvis Platiné, on tournait beaucoup à l'époque en Bretagne, dans l'ouest de la France, donc on était tout le temps en voiture, en camion et tout, et j'ai eu la chance... Qu'un nouveau guitariste est arrivé dans le groupe, et c'est un Marseillais. Ce Marseillais, Simon Bendahan, du quartier de Pointe-Roux, une vieille chapelle, qui a fait une très belle carrière musicale, notamment avec la chanteuse Sappho. Et à ce moment-là, d'un coup, on s'est retrouvé deux Marseillais dans la voiture au fin fond de la Bretagne. Et alors, lui, il était là constamment. « Oh, regarde, tu as vu cette colline ? On dirait un peu le Gard là-bas, non ? Oui, là, on dirait pas un peu vers Cassis, là, les Rochers Rouges. » Et alors, on parlait tout le temps de Marseille. Et moi, je lui parlais tout le temps du Rasta, du reggae, parce que j'étais en pleine découverte du truc. C'était en 78, donc ça faisait quelques mois, et j'étais à fond là-dedans. Je suis à découvrir, à chercher. Et alors, du coup, moi, je parlais de reggae, on parlait de Marseille, on parlait de Rasta, on parlait de tout ça. Et lorsque la voiture m'a ramené, en fait, à l'époque, donc j'habitais encore à Paris, je n'étais pas encore redescendu dans ma ville natale. Quand il me ramène chez moi, il me salue, il me dit « Allez, salut, Rasta de Mouropian. » Alors ça m'a vraiment, le truc Rasta de Mouropian, cette espèce de dualité qui devenait unité, m'a tellement surpris que dans la nuit, j'ai écrit la chanson d'un trait, en fait. Donc c'est vrai que c'est une chanson qui me touche beaucoup, parce que c'est une des premières que j'ai chantées, et où je chante tous les quartiers de Marseille, de mon enfance, que je raconte en fait mon adolescence et tout ça. Et quelques années après, quand je reviens à Marseille, je la chante, et un gars vient, il me dit, tu le connais le Rasta de Mouropian ? J'ai dit, non, mais c'est une invention. Je lui dis, mais non, il me dit, il y a un Rasta à Mouropian là-bas sur la côte en allant vers l'Estac. Et effectivement, il y avait à l'époque là un gars qui était habillé avec des couleurs rasta, tout ça, un peu zonard, mais bon, qui était là avec une compagne et qui déambulait constamment, et tout le monde l'appelait le Rasta de Mouropian sans que je le sache. C'est donc, voilà, je dirais, c'est cette chanson que je mets en avant, parce que je la chante encore aujourd'hui.
Génial, l'histoire dans l'histoire. Et justement, en parlant de dualité et puis d'origine aussi... entre le raga, le Marseille. Ça a été important pour vous d'élaborer le spectacle Arménie Harmonie,
oui.
Dans le cadre de l'année de l'Arménie en France.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Ben, c'était l'occasion unique de présenter une série de chansons qui m'ont été inspirées par, on va dire, mon peuple d'origine. Mon peuple d'origine, puisque mes parents, en fait, sont des réfugiés arméniens. Donc survivant du génocide, hein, mes quatre grands-parents, tous mes oncles et tantes des deux côtés de ma famille qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas du tout de la même région mais ont vécu le même drame, c'est-à-dire le génocide entre 1915 et 1917-18, pendant la première guerre mondiale en France, enfin dans le monde. Et donc eux, c'est des survivants du génocide, ils sont venus ici orphelins. Et ils ont trouvé Marseille comme toute la communauté arménienne qui les a accueillis. Donc je suis très attaché à mes racines, parce que d'abord j'ai été aussi une fois en Arménie, et je me sens donc aussi profondément oriental, parce qu'on le veuille ou non, l'Arménie c'est l'Orient, la vraie Arménie, non pas l'Arménie actuelle qui est une toute petite partie de l'Arménie historique, qui était la partie qui était longtemps sous l'égide du tsar de Russie et qui, après la révolution, est devenue République socialiste soviétique d'Arménie. Et au moment de la perestroïka, donc lorsque tous les pays sont devenus indépendants, ça a été le premier d'ailleurs à devenir République d'Arménie indépendante. C'est une partie, tout le reste du pays et donc occupée par la Turquie et une bonne partie encore aujourd'hui maintenant les gros problèmes qu'il y a à l'heure actuelle avec l'Azerbaïdjan. Donc je suis très touché par la situation encore aujourd'hui en Arménie. Je voulais l'exprimer, je l'ai exprimé dans cette chanson Arménie Harmonie qui est à la fois très poétique et aussi dans ma chanson en langue arménienne que j'ai écrit Arrivin Sain qui veut dire le son du soleil puisque l'Arménie est un peuple solaire depuis la plus haute antiquité.
Et rappelons, petite parenthèse politique, que Erdogan, le président turc, ne reconnaît toujours pas le génocide.
Ah ben non. Il le nie totalement, d'ailleurs, ce qui est malheureux pour les pauvres, finalement, turcs, parce qu'ils sont totalement desservelés et on ne leur raconte pas leur vraie histoire. Et c'est bien malheureux.
Je vous propose qu'on écoute un de vos nouveaux titres.
Eh oui, quand même.
Donc Armageddon tout de suite.
Oh là là, ah ben justement, c'est tout à fait dans le sujet.
Radio Babylone, Radio Babylone, j'ai actuellement les trois quarts des ondes. Armageddon, Armageddon. Et Radio Babylone, Radio Babylone, manipule tout le monde. Armageddon, Armageddon. Le meilleur constate que bout la marmite dans sa boue. Les villes nouvelles sont des champs de bataille. Armageddon, Armageddon. Quelque part pourtant existe une montagne. Armageddon, Armageddon. L'enfant roi retrouve son sceptre en diamant. Chante Rasta pour le peuple uni, c'est la fête. Armageddon, Armageddon, à travers les ruines. repousse l'herbe verte. Armageddon, Armageddon, elle sert à la guérison des nations.
En écoutant, j'ai l'imaginaire visuel des BD de Jodorowsky.
Ah oui, bah dis donc, bah c'est beau, ça
sur
fait plaisir.
Babylone, la grande Babylone.
Un grand maître.
Et donc, bah ça, c'est votre nouveau projet.
Voilà, ça c'est
Joe Corbeau et,
et le Trident. Donc le Trident, c'est quand même des musiciens qui jouent avec moi depuis très longtemps, mais à part que là, ils sont réduits à trois. Voilà, donc, en fait, Rasta Iron joue avec moi depuis depuis l'album Roi des Rois. Hein. Donc après, il a eu un parcours absolument fantastique. Il était présent. C'est lui qui a produit aussi déjà l'album Jardin Paradoxal. Hein. Et celui-ci également, et il joue du clavier, mais c'est un artiste très, très réputé, très demandé, hein, du côté de Port-de-Bouc, où il a son studio K, où nous avons enregistré. Ah, il faut dire qu'on a quand même enregistré en prise directe, hein, c'est-à-dire vraiment okay. Tous ensemble, en même temps, sans reprise particulière. Et donc voilà, Rasta Iron qui joue aussi avec Ayam, hein, depuis des années, qui est au clavier avec Ayam, qui était aux Pyramides. Notre ami le Kilo, le batteur, était également aux Pyramides avec Ayam. Ce sont des gens qui jouent avec des artistes du reggae très connus, comme Pablo Mos, comme le Mighty Diamond, des gens comme incroyables, quoi. Ils arrêtent pas. Et Badan, le bassiste aussi, mon fidèle bassiste depuis l'ADN, qui tourne aussi avec énormément de gens dans la région, comme Toco Blas, comme Y-Star, etc. Donc, ce sont des musiciens très aguerris. Et donc, nous avons décidé de faire cette formule, on va dire, beaucoup plus souple et beaucoup plus gérable aussi, puisque nous sommes quatre à nous déplacer. Et donc, ça c'est quelque chose un peu différent de ce que je faisais auparavant, quand même. Notamment, j'ai souvent joué avec des cuivres, des trombones, des saxos, mais vous savez...
Un orchestre.
Voilà, un orchestre, comme l'ADN, par exemple. L'ADN, nous étions une bonne dizaine sur scène. Mais vous savez, de nos jours, avec la réception, avec le peu d'argent qui sont reversés à la culture, surtout dans les structures qui ne sont pas dans le big business, dans le gros show business, bien, c'est très difficile de faire tourner des big bands. Hein. C'est un peu ce qui s'est passé.
Sur les scènes locales aussi, par des enjeux, effectivement, vous réduisez le nombre d'artistes sur scène.
Ah ben oui, parce qu'à partir du moment où on règle tous les musiciens sont des professionnels payés, déclarés avec les charges sociales, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi aussi. Donc il faudrait aussi que les gens se rendent compte que musicien, c'est un vrai métier. En tout cas, je suis très content d'être avec ces trois pointes.
Donc,
là,
le dernier, c'est Kilo.
Pardon ?
Le dernier, c'est Kilo à la batterie.
Kilo à la batterie, voilà. Donc Kilo qui a joué aussi énormément, qui travaille constamment, qui était avec les Mighty Diamond, qui était avec... Denise Al Capone, qui accompagnait Earl Sexton, enfin, notamment avec son groupe de Toulon qui s'appelait à l'époque les No More Babylon. Donc, c'est des musiciens qui sont habitués à jouer avec beaucoup d'artistes. Il faut qu'ils soient sur scène, il faut qu'ils soient en studio.
Vous êtes quatre personnes qui aimaient le live.
Voilà.
Et j'en suis sûr que vous mettez le feu à chacun.
Ah ben là, on se régale parce qu'alors en plus, on ça part un peu dans des improvisations psychédéliques. On s'amuse musicalement. Quoi. On n'est pas juste là pour reproduire le morceau comme il est sur tel et tel album.
Oui, je pense que vous êtes très généreux pour le public qui vient vous écouter.
Le public, si alors il est généreux avec nous, alors nous, on redouble d'intensité.
Vous êtes poète. Quel est le choix d'avoir écrit Armageddon et aussi un autre titre qu'on va écouter après?
Oui, alors Armageddon, en fait, c'est un titre que j'avais déjà enregistré une première fois avec les Men in the Hill, quand même. Donc, en 80, 83 ou 80, dans ces eaux-là, quoi. on va dire, ouais, 83, je crois. Et j'avais enregistré déjà ce titre, Armageddon, il n'était jamais sorti. Donc, il fait partie de ces morceaux. À l'époque, on enregistrait beaucoup, mais il n'y avait pas encore la technologie d'aujourd'hui. On enregistrait des fois avec des magnétos 4 pistes, cassettes, etc. Donc, le titre était resté un peu de côté. Je l'avais repris quelques fois avec mes différents groupes, mais ce n'était pas un morceau. Mais par contre, il a une histoire, ce morceau, parce qu'en fait, ce morceau, à l'origine, c'est le chanteur Joseph Hill du groupe jamaïcain Culture qui a lancé ce titre-là, et c'est en l'écoutant que je l'ai réadapté. Et donc, comme dans le reggae, il y a beaucoup ce thème d'Armageddon, parce qu'en fait, si vous voulez, dans la culture reggae et rasta, plutôt, parce qu'il n'y a pas que des rastas dans le reggae, mais en tout cas, chez les rastas, la lecture de la Bible est très importante, et notamment de l'Apocalypse de Saint Jean. Et donc, dans l'Apocalypse de Saint Jean, on parle de lorsqu'arrive la fin des temps, se déclenche une bataille entre tous les rois de ce monde dans un lieu dit Armageddon. Donc ça, c'est un thème qui est assez récurrent. Buddy Weller le chante. Énormément d'artistes jamaïcains ont repris ce thème. Même les Clash, à l'époque, oui, avaient repris ce thème quand ils faisaient du reggae dub. Donc, pourquoi l'avoir repris ? Eh bien, parce que lorsque j'ai retrouvé mes deux amis, un peu les lanceurs, les influenceurs qui sont autour de moi, c'est-à-dire Rasta Iron de Port-de-Bouc et Patrick Garage de l'association Exki sur Aix, du côté des Arcades, à Aix-en-Provence, ce sont eux deux qui ont décidé de coproduire un nouvel album. Et l'idée, c'était de sortir 4 titres qui étaient déjà connus, mais qui n'ont jamais été publiés, édités discographiquement, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai ressorti ce titre, parce qu'il y avait la majorité des gens m'ont dit, en fait, tu as écrit ce titre il y a 30 ou même un peu, pas loin de 40 ans bientôt. Et en fait, il est toujours d'actualité, quoi. C'est la guerre sur tous les fronts de Babylone, voilà, et encore plus peut-être, enfin pas plus qu'aujourd'hui, parce qu'en vérité, comme je dis, il y a toujours eu des guerres, des meurtres, des assassinats, des fous furieux, à part que les gens ne savaient pas très bien, à part s'ils lisaient le journal ou s'ils écoutaient, il y avait beaucoup moins de chaînes d'infos. Aujourd'hui, tout se fait à l'instant même, alors on pense qu'il y a beaucoup plus qu'avant, mais il y a toujours eu ces horreurs qui font honte à l'humanité.
Tout à fait, mais restons sur, sur vous et votre groupe. Bah, vous avez des actualités, vous allez faire des concerts prochainement.
Oui, oui.
Le 13 juillet,
oui,
aux Arcades.
Alors voilà, aux Arcades, alors c'est un peu spécial parce que les Arcades, donc on a joué aux Arcades pour le lancement il y a deux mois. On a joué aux Arcades qui est un lieu très sympathique. Mais alors les Arcades, ce qu'ils font là au beau jour, c'est qu'ils ont un magnifique patio en plein air, ombragé dans la verdure, et ils font bar, restaurant le soir, mais beaucoup plus côté, comme il y a du voisinage, on ne peut pas envoyer la grosse sauce, le gros son. Alors c'est plutôt des soirées, on va dire acoustiques, semi-acoustiques, un peu cabaret, un peu plus comme ça, autour d'un verre, tranquille. Et donc le 13, je serai là avec Rasta Iron au clavier. Et moi, je ferai un peu de guitare aussi, et puis voix, bien sûr, avec peut-être aussi d'autres chansons, qui un peu plus des ballades, des petites histoires qu'on racontera aussi.
Et le 17 juillet, vous êtes à Martigues, au festival Fada de musique.
Voilà, alors là, comme on est Fada, on va justement représenter tous les Fadas de la planète. Hein. Parce que le Fada, c'est pas le fou, hein, faut pas croire. Hein. Le Fada, c'est l'homme qui en Provence a vu la fade, c'est-à-dire la fée, le farfadé et la fadé, les deux êtres magiques de la forêt. Et donc comme il voit cette fadé, il est ébloui, il revient, il dit « j'ai vu la fadé », alors on dit « les fadas », voilà. Et là ça sera bien parce que le lieu est magnifique, c'est tout au bout de l'île, dans la cour, l'ancienne cour de l'ancien conservatoire, là, qui est au bout de l'île de Martigues, dans un lieu magique. Et on sera enfin là, réunis avec mes trois tridents. Comme celui d'après aussi, d'ailleurs.
Et 21 juillet à Barjols.
Voilà, à Barjols aussi, c'est le Trident. Donc là, on remonte un peu dans les terres, là.
Et votre dernier concert de juillet, c'est un live à Radio Zinzine.
Voilà.
À Fort-Calquier, le 27 juillet.
C'est ça. Ça ben aussi, c'est encore une belle aventure, parce que Zinzine nous soutient bien, que ce soit sur Aix, Fort-Calquier. Et je remercie de toute façon mon ami Lucas, qui est notre attaché de presse, qui fait que je suis aujourd'hui sur Fréquence Mistral et que j'ai visité déjà plusieurs radios qui m'ont toutes très bien accueilli pour le lancement de tout ce nouveau programme.
Eh ben, on pourrait conclure donc en écoutant, parce que malheureusement le temps...
c'est normal.
S'épuise, alors que c'est très passionnant de vous écouter.
Voilà.
Mais je me disais, comme on va écouter l'éloge de la fourmi, est-ce que vous voulez nous raconter un peu pourquoi vous avez écrit ce titre ?
Ben voilà, parce que si vous voulez, souvent, quelquefois, je fais des sujets graves, quelquefois, comme dans certaines chansons, je parle justement de guerre ou d'injustice, etc. Et puis c'est pour remettre un petit peu les choses dans un autre niveau, que finalement tout cela c'est la folie et que malgré tout la vie continue et que si on prend les bonnes vibrations, si on remplit son cœur d'amour, on trouve la bonne clé pour ouvrir la bonne serrure.
Ah, très bien. Et j'y pense, avant de conclure, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez des réseaux sociaux ? On vous suit sur Insta, sur Facebook ?
Ah ben écoutez, sur Facebook, donc il y a Jo Corbeau qui existe, qui est plus sur le côté à la fois pas mal d'archives, des choses un peu autour de Jo Corbeau. Et puis il y a Baba Jo qui est un peu plus personnel, parce qu'on m'appelle aussi Baba Jo. Je vais souvent en Inde maintenant, donc ils m'ont appelé comme ça là-bas et je suis revenu avec mon pseudonyme de... Et surtout, vous pouvez suivre vraiment l'actualité précise avec Jo Corbeau et le Trident. Donc là, tout ce qui est autour du travail que l'on fait actuellement avec mes amis Rasta Iron, Kilo, Drum et Badan à la basse. Au plaisir de se revoir bientôt et de se régaler ensemble.
Eh ben, merci d'être venu sur les ondes de Fréquence.
Merci les amis. Vive le Mistral, hein. Il souffle fort et il lève la pollution.
Le diable de mon verre a jailli, oui. cela n'est que folie. Oh, tout cela, oh oui, n'est que folie. J'ai mis le démon dans ma poche. Je ne veux pas le voir, il est moche. Je préfère ma douce amie. Silence, pas de bruit, elle lit. Elle lit, oui, l'éloge de la folie. Elle lit.